Pour les premières fois, la première fois, peut-être vous êtes venus spécialement pour Emmanuel et Sarah, et vous découvrez cette église, soyez les bienvenus. Alors je m'adresserai particulièrement à vous, puis à un moment donné, je ferai une petite bifurcation pour m'adresser à Emmanuel et Sarah. Je vous lis un texte dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 1er, un texte un peu étonnant, mais un verset bien connu. Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide et je ne craindrai rien ». Que peut me faire un homme ? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui sont attachés. J'ai insisté sur ma lecture au verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et non pas demain, mais éternellement. J'ai insisté sur cette lecture parce que nous connaissons bien ce verset. Lorsque nous offrons une Bible, un Nouveau Testament, je dis toujours à la personne, le Jésus que tu vas découvrir dans l'Évangile, c'est le même aujourd'hui. Ce qu'il a fait, il le fait encore aujourd'hui. Et ce qu'il était, il l'est toujours. La seule différence, c'est qu'on ne peut pas le voir de manière physique. Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais je voudrais considérer cette déclaration dans le contexte de cette épître. C'est pourquoi j'ai lu les versets qui étaient avant et celui qui était après. C'est toujours bien pour comprendre la Bible de regarder ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, notamment pour comprendre un texte. Alors les versets qui sont avant et après sont un petit peu décousus. Ils n'ont pas trop de lien entre eux. Nous sommes dans une fin d'épître. Et comme toutes les fins d'épître, souvent il y a beaucoup de petites exhortations. Néanmoins, dans le contexte que nous avons lu, je voudrais dire ceci par rapport à cette déclaration « Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement ». Ça veut dire que Jésus ne change pas. Jésus ne change pas dans le désir de vous faire du bien. Dans le texte que nous avons lu, Dieu déclare « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, le Seigneur est mon aide ». Jésus est celui qui peut vous faire du bien et celui qui veut vous faire du bien. Quel bien parlons-nous ? Quand Jésus a commencé son ministère terrestre, dans la synagogue de Nazareth, on lui a laissé la parole. Et là, il a choisi le texte qu'il voulait, celui d'Ésaü. Et il a lu, « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Les gens vont regarder Jésus et Jésus dira « Cette parole vient de s'accomplir ». Et à partir de là, Jésus a commencé un ministère où il a fait ce bien-là. C'est-à-dire un bien dans tous les domaines. Jésus fait du bien sur le plan matériel. Jésus fait du bien sur le plan corporel. Jésus fait du bien au plan de l'âme, sur le plan psychologique, sur le plan mental, sur le plan spirituel. Jésus fait du bien dans tous les domaines. Rien ne lui résiste. Et ce qu'il a commencé, il continue de le faire. Je ne sais quel est votre problème, mais je sais une chose, c'est que Jésus peut vous faire du bien. Et Jésus veut vous faire du bien. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup qui veulent vous faire du bien, Mais lui, il veut le faire. Parce qu'il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu, il se présente comme celui qui veut nous aider. Jésus ne change pas aussi, et c'est dans le contexte, dans ses normes morales, dans ses normes éthiques. Quelqu'un pourrait dire, oh, on est en 2018, aujourd'hui ça a changé. Dieu ne change pas dans ses valeurs morales. Ce qui était mal il y a 2000 ans est pour Jésus toujours mal aujourd'hui. Et ce qui était bien l'est toujours. Nous sommes dans une génération qui a envie d'inverser les choses, qui a envie de faire sa soupe. Mais Dieu déclare les mêmes choses. Et ce qu'il disait il y a 2000 ans, sur le plan moral, c'est toujours vrai aujourd'hui. Dans le texte que nous avons lu, les questions du mariage, le texte est clair, hein, que le mariage soit honoré de tous, pas le mariage pour tous, hein, mais le mariage d'un homme et d'une femme, celui-là, qu'il soit honoré par tous. Mais nous comprenons par cette simple déclaration que Dieu n'a pas changé et que Dieu a voulu un cadre, il a placé un cadre pour l'union de l'homme et la femme. Dieu a placé un cadre pour la vie sexuelle. Dieu a placé un cadre pour l'éducation des enfants. Et celui-ci, c'est le mariage. Ce n'est pas le concubinage. Aujourd'hui, on voudrait penser que... Mais la Bible, elle est catégorique. Il est question d'adultère dans le texte que nous avons lu. Il est question de débauche ou d'impudicité. Un texte clair, un texte qui surprend aujourd'hui. Mais la Bible montre que Dieu a voulu que tout cela se fasse dans le cadre du mariage. L'adultère, c'est les relations dans le cadre du mariage avec quelqu'un d'autre. L'impudicité, c'est toute forme de sexualité en dehors du mariage. Et là, la Bible, elle est catégorique. Et Dieu ne change pas dans ses normes. Je sais qu'aujourd'hui, on évolue, on veut faire évoluer les choses, mais Dieu maintient ses règles morales. Je me tourne vers Emmanuel et Sarah. Vous avez vraiment pris la bonne décision en vous mariant. Je ne sais pas, je ne vous connais pas encore assez bien, je vous découvre, mais c'est un choix d'obéissance que d'obéir, que de se marier. Je voudrais vous dire deux choses. La bénédiction sur votre mariage, elle ne dépend pas d'une cérémonie. On va prier pour vous tout à l'heure, mais la bénédiction, elle ne dépend pas tellement de la prière qu'on va faire pour vous, même si c'est important. Elle va dépendre de votre manière de vivre, des choix de vie que vous ferez. Si vous mettez Dieu en premier, si la parole est à l'honneur dans votre maison, si Christ est élevé, s'il y a un désir d'obéir, si vous vous attachez à l'Église, si vous vous attachez aux principes de Dieu, il y aura une grâce et une bénédiction sur votre maison. Et vous passerez toutes les tempêtes que vous pourrez connaître, vous les passerez avec succès. Ça, je crois que c'est vraiment bien de l'intégrer, de le recevoir. Le texte que nous avons lu sous-entend que la vie peut être difficile pour le couple particulièrement. Il est question d'adultère, de choses comme ça, mais on comprend qu'aujourd'hui, on est dans un monde de tentation. Il est question de cupidité, finalement de problèmes d'argent, et ça, c'est des choses aussi qui peuvent arriver. Le chemin pour un couple, il est long. Et il est parfois difficile et semé d'embûches. Et il y aura des crises, hein, mais je crois que Jésus est celui qui peut vous aider. En le mettant à l'honneur, en vivant d'après sa parole, en agissant selon ses conseils. La Bible, elle est pleine de conseils pour la vie conjugale. Elle est pleine de conseils pour le rapport entre l'homme et la femme, pour le fonctionnement du foyer, pour la gestion de l'argent, pour l'éducation des enfants. Celui qui met en pratique ces choses-là, il y aura une bénédiction sur sa vie et sur son foyer. Et c'est ce que je vous souhaite, Emmanuel et Sarah. Et c'est vraiment important. Parce que on n'échappe pas à certaines crises, on n'échappe pas aussi à certaines difficultés. Parfois dans la vie, il peut y avoir un drame, ça peut arriver. Mais le Seigneur, il est celui qui nous aide. Jésus ne change pas aussi dans le diagnostic qu'il pose sur la vie de l'homme. Je le disais, nous sommes dans une société qui évolue et qui veut faire évoluer, qui a une tendance à faire évoluer. Mais Jésus ne change pas dans son diagnostic. Le principal problème de l'homme, ce n'est pas la faim dans le monde. Ce n'est pas le chômage. Ce n'est pas l'insécurité. Le principal problème, et Jésus le déclare ici, le montre, c'est le péché. La Bible montre clairement. Et c'est là le problème. C'est ça qu'il faut régler en premier. La Bible nous dit que tous les hommes sont des pécheurs. Vous êtes un pécheur. Qui que vous soyez, peut-être que vous pensiez pas si mal que ça, peut-être bon, eh bien je voudrais vous dire, vous êtes quand même un pécheur. Avec de bonnes intentions, certes. Mais le péché, c'est cette puissance qui est en vous, cette puissance d'égarement et de destruction qui vous poussera à faire le mal, même quand vous avez l'intention de faire le bien. Le péché, c'est cette puissance en nous qui va faire que notre égoïsme va prendre le pas sur nos bonnes intentions et nos bonnes dispositions. Le péché, ça nous mène vers le bas. Le péché, c'est cette capacité à nous élever dès qu'on a fait une chose de bien. Le péché, c'est quelque chose qui nous mène vers le bas. Le péché, on en est tous atteints. Et la Bible nous montre que le péché, c'est plus fort que nous. La Bible nous dit même que la conséquence du péché, c'est la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu. Et c'est ça le problème numéro un. Et c'est ce que Jésus veut solutionner en premier. Jésus, il est celui qui peut changer notre cœur. Il est celui qui pardonne les péchés. Il est celui qui peut nous délivrer de la puissance du péché. Je ne sais pas comment le péché vous tient, mais je sais qu'il vous tient d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par la culpabilité, ça peut être par des convoitises et des passions, ça peut être par des addictions, ça peut être par une conscience qui vous tourmente. Je ne sais comment le péché vous tient, mais je sais qu'il vous tient si Jésus n'est pas venu dans votre vie. Et il n'y a que Jésus qui peut nous en libérer. C'est le problème numéro un. Il est là. Et ça, alors cette manière de parler, ça choque. Ça provoque des réactions, mais ça, c'est l'Évangile. Et puis, je voudrais dire aussi, Jésus ne change pas dans la solution qu'il apporte à vos problèmes. C'est ce qui fait que l'Évangile est complètement différent de toute autre religion. Toute religion, quelle qu'elle soit, je ne veux pas les citer, mais toutes les religions proposent la même chose, sous des formes diverses. Qu'est-ce qu'elles proposent ? Un effort pour essayer d'atteindre Dieu. Alors on propose des œuvres méritoires, des aumônes, des jeûnes, des pénitences, on propose des œuvres de bienfaisance, des prières à réciter. Dans toute religion, vous trouvez ces choses-là, plus ou moins. Mais tout ça, ça fait quoi ? Ça tranquillise un petit peu l'esprit sur le moment, mais dès le lendemain, vous vous retrouvez avec votre problème. Dès le lendemain, ça soulage la conscience de manière superficielle, mais ça ne la lave pas en profondeur. Ça ne libère pas de la puissance du péché. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Ça ne peut pas être fait de cette manière-là. Mais l'Évangile, c'est complètement différent. Je dis, la religion, c'est comme un effort pour essayer d'atteindre Dieu, mais un effort inutile. L'Évangile, c'est un courant descendant. Ça vient d'en haut. La Bible nous dit que toute grâce excellente descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a aucune ombre de variation, aucun changement. Et il y a 2000 ans, Jésus a accompli quelque chose de grand. Il a donné sa vie sur la croix. Il est mort et c'est Dieu qui est venu jusqu'à nous. Dieu a ouvert une source qui s'appelle la grâce. La grâce, c'est quoi ? La grâce, c'est ce qui fait que l'Évangile est unique. La grâce, c'est Dieu qui vient jusqu'à nous. C'est un mouvement descendant. C'est comme une source qui coule du ciel et qui va remplir le cœur de celui qui s'y dispose, dans le cœur de celui qui y croit. La grâce, c'est quelque chose d'immense. La grâce, c'est Dieu qui veut donner abondamment dans notre vie, indépendamment de nos mérites et de ce qu'on peut apporter en échange. Uniquement sur le terrain de son amour. Et la seule chose à faire, c'est d'exercer la foi et de reconnaître qu'on est pécheur. Mais ça, c'est complètement différent. Celui qui exerce sa foi dans le Dieu de grâce, il va voir l'action de Dieu dans sa vie, dans sa conscience, dans ses désirs, dans sa manière de réfléchir. Dieu va déposer ce que la Bible appelle la vie nouvelle. C'est quelque chose vraiment d'essentiel, la grâce. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Il n'y a que Jésus qui peut nous changer. Hier, dans la boîte aux lettres, il y a quelqu'un qui a mis un petit mot. Alors, il a écrit ceci, j'ai noté, « Pour aujourd'hui et demain, l'homme s'assume, fin des religions. » Alors je saisis un petit peu, mais ça m'a interpellé par rapport au texte que moi je dis que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et pas seulement demain, mais éternellement. Alors il met l'homme, s'assume, ça ment. Derrière, c'est écrit au dos d'un ticket de PMU. Alors je dis, pour quelqu'un qui s'assume, c'est pas terrible. Parce que j'aimerais bien savoir ce que pense sa femme, quand on sait le dégât de ces choses-là, dans les foyers. La dépendance, c'est, j'ai envie de dire, s'assumer. C'est reconnaître qu'un jour on est pécheur, qu'on est perdu sans Jésus, et que lui seul peut nous sauver et pardonner nos péchés. Nous sommes dans un monde qui bouge. Ça bouge beaucoup. Mais je voudrais vous dire que Dieu ne change pas dans sa disposition à vouloir vous faire du bien. Nous sommes dans un monde qui bouge. Mais le problème numéro un demeure, c'est le péché. Et nous en sommes tous atteints. La différence ici, c'est qu'il y a des gens qui sont des pécheurs graciés, et il y a des gens qui sont encore avec leur péché, et la condamnation est toujours sur eux. Mais ce qui ne change pas aussi, c'est la grâce. Dans le texte que j'ai cité tout à l'heure, Jésus est venu publier une année de grâce, mais ce n'est pas une année de 360 jours, c'est une année qui dure encore, jusqu'à un jour où Dieu mettra fin. Mais aujourd'hui, la porte de la grâce, elle est ouverte. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est celui qui peut vous bénir. Je voudrais prier maintenant. Tout à l'heure, je vais prier pour Emmanuel et Sarah. Mais avant, je voudrais prier pour vous. Peut-être vous qui entendez cette prédication de l'Évangile pour la première fois,